Bien, alors nous allons parler aujourd'hui dans cette formation du Servant-pensée, psychologie, psychiatrie. C'est un thème, je dirais, vieux comme le monde, de ce qu'est la pensée et de ce qu'est la santé mentale, de ce qu'est l'équilibre mental et l'équilibre psychique. Qu'est-ce que c'est que d'être en bonne santé finalement? Qu'est-ce que c'est que d'avoir une pensée qui nous maintienne en bonne santé? La médecine va la plupart du temps travailler sur l'idée de la santé du corps, en disant vous êtes malade, vous n'êtes pas malade, vous êtes en bonne santé ou bien vous n'êtes pas en bonne santé. En matière de psychiatrie et de pensée, c'est beaucoup plus complexe. Parce que qu'est-ce que ce serait qu'une pensée en bonne santé? Est-ce que ce serait une pensée conventionnelle classique qui respecterait toutes les règles? Est-ce que ce serait une pensée sauvage, indépendante, variable et libre? Ce serait quoi au fond le signe de la bonne santé? Et puis, le cerveau dans cette histoire, c'est quoi? C'est un ensemble de cellules nerveuses, une masse grise qui est dans votre boîte crânienne. Ça sert à quoi en fait un cerveau? Comment ça fonctionne? C'est un des organes les plus complexes qui soient, des milliards et des milliards de cellules. 3000 milliards de connexions cellulaires. C'est-à-dire, il y a dans le cerveau 3 fois plus de connexions cellulaires que d'hyperliens dans le réseau Internet mondial. Donc, chacun de vos cerveaux, c'est 3 systèmes Internet mondial. Et chez un enfant qui vient de naître, c'est 10 fois le système Internet mondial dans un seul cerveau. Vous imaginez que quand on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui on est très très loin du compte dans cette capacité à faire. Et c'est aussi énormément de ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Le cerveau a une capacité extraordinaire de s'adapter. Le cerveau, c'est quoi? C'est une machine à fonctionner, c'est une machine à prévoir et à anticiper. Et l'intelligence, c'est la capacité à utiliser l'expérience d'avant pour les utiliser vers le futur. Et on pourrait dire qu'un cerveau, ça fonctionne comme ça. Un cerveau est en équilibre si vous avez cette capacité perpétuelle à vous adapter. Si vous avez cette capacité dans une situation à savoir réagir sans vous bloquer, je dirais dans un coin. En quelque sorte, vous avez de très très nombreuses manières de réagir. On verra ça dans ce qu'on appelle l'arbre des maladies. On verra ça aussi dans ce qu'on appelle la croix du paléolimbique. Et l'équilibre humain, c'est l'adaptabilité. En quoi je suis adaptable? En quoi mon cerveau va exercer son rôle de capacité à réagir le plus souplement possible et le plus efficacement possible face à des situations. Et toute situation où vous serez bloqué dans une position commencera à être une situation de pathologie. Pathologie qui sera d'abord psychique avant de devenir une pathologie organique. Et quand on va travailler en thérapie, l'idée générale, ce sera de se dire, au fond, quel est l'endroit qui est bloqué? Vous avez tous, dans votre manière de faire, toutes les possibilités de fonctionnement. Vous avez tous un côté paranoïaque, un côté hystérique, un côté borderline, un côté schizoïde, un côté Alzheimer, un côté autiste, un côté dépendant, un côté évitant, un côté obsessionnel. Vous avez tous cet aspect-là. Et nous verrons dans cette formation quelles sont les parts de vous qui fonctionnent comme ça. Et l'important, ce sera de voir que toutes ces parts sont en équilibre. Si vous allez voir votre contrôleur fiscal, vous allez être paranoïaque, c'est normal. Si je dois parler devant vous, il vaut mieux que je sois un petit peu hystérique, c'est normal. Si je suis avec des gens que je ne connais pas, il faut mieux que je sois un petit peu évitant, voire borderline, pour savoir s'il faut que j'y aille ou s'il faut que j'y aille pas. Si je dois avancer dans ma vie, il vaut mieux que j'oublie certaines choses, parce que si je me souviens de tout, je ne pourrai jamais avancer. Il faut que j'ai un petit côté Alzheimer sur les bords pour pouvoir avancer. Donc vous voyez, vous avez tous à l'intérieur de vous toutes les possibilités. La maladie, c'est d'être bloqué dans une possibilité. C'est d'être bloqué dans une manière de réagir. Et donc, pour le cerveau comme pour le corps, La bonne santé, ce sera la capacité d'adaptation, ce sera l'adaptabilité. Comment je vais m'adapter au mode de fonctionnement extérieur, comment les choses vont se mettre en place dans ma vie pour que je puisse garder mon équilibre. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pendant très longtemps, la médecine a considéré d'un côté les maladies organiques et de l'autre côté les maladies psychiques. Et les deux n'étaient pas liés. Et quand les gens viennent me voir en consultation, ils me disent « Est-ce que vous croyez que ça pourrait être psychique ?» Ou « Ça pourrait être dans la tête ?» Je leur dis « Écoutez, c'est simple, laissez votre tête dans la salle d'attente et revenez, on va voir. » Si c'est psychique, vous n'aurez plus rien. Donc l'idée même que le corps et l'esprit sont séparés sont deux idées fondamentalement fausses. La médecine, surtout la médecine moderne, a fonctionné très très longtemps de cette manière-là en disant « Il y a l'organique ». Et il y a les pensées. MacLean, au début du siècle, a fait les trois cerveaux. Il y avait le cerveau reptilien, qui va gouverner tous les réflexes. Il y avait le cerveau limbique, qui avait gouverné toutes les émotions. Il y avait le cerveau cortical, qui est la pensée, qui était la forme supérieure cartésienne, et qui n'était en aucun cas en lien avec les émotions. Vous aviez les pensées d'un côté, les émotions de l'autre, les réactions reptiliennes après. En fait, cette idée est totalement fausse. On sait aujourd'hui que l'ensemble des modes de fonctionnement est totalement connecté, que vous avez non pas trois cerveaux, mais beaucoup plus que ça. Vous avez un cerveau métabolique, vous avez un cerveau digestif, avec aussi un cerveau cardiaque, puis vous avez un cerveau reptilien. Puis vous avez un cerveau limbique qui va fonctionner en deux parties, un vieux limbique qui est ce qu'on appelle le paléolimbique, et puis un nouveau, un cerveau limbique autre qui est le néolimbique, qui est le nouveau limbique, qui va fonctionner en lien beaucoup avec le cortical, et puis après ça vous avez le cerveau préfrontal. Et l'ensemble de ces cerveaux vont fonctionner en synchronisation. Et le fonctionnement aussi d'un être humain, c'est l'empilement, la superposition des différentes couches de fonctionnement qui fait que l'ensemble des cerveaux vont fonctionner. En sachant que l'évolution humaine va se faire vers le sens du développement des formes les plus évoluées de cerveau pour arriver jusqu'au préfrontal. Et nous verrons très souvent qu'en cas de difficulté, en cas de pathologie, quand les formes les plus évoluées de fonctionnement sont bloquées, vous allez repartir dans des modes de fonctionnement plus bas, dans le sens de l'évolution, dans le sens de l'intégration, jusqu'à retrouver enfin un mode de fonctionnement qui fonctionne. Le plus élevé de tous, c'est la forme préfrontale, c'est la grande intuition, c'est la prescience des choses, c'est ce qui fait que vous sentez les choses avant de les savoir. Ça, c'est la forme la plus évoluée de toutes. Après ça, vous avez la forme corticale, la pensée, ce qu'on appelle le mental automatique, qui est une forme fondamentale parce qu'elle fait 98% de votre activité, et heureusement que vous avez un mental automatique, sinon vous ne sauriez rien faire. Et ce mental automatique est couplé aux émotions, aux néolimbiques, qui sont les grands sentiments. Et donc l'idée générale de dire, comme le disait Descartes, il y a la pensée d'un côté, il y a les émotions de l'autre, est une idée fondamentalement fausse. Antonio Damasio, grand professeur de neurologie américain, a écrit un certain nombre de livres dont le premier s'appelle « L'erreur de Descartes ». C'est-à-dire que Descartes a complètement tort quand il sépare les deux. Mais c'est d'autant plus intéressant que quand on connaît un peu l'histoire de Descartes, les découvertes de Descartes sont tout sauf cartésiennes. C'est-à-dire qu'en gros, le cartésianisme, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le cartésianisme, c'est peut-être une des plus grandes illusions qui soit. Quand quelqu'un vous dit « je suis cartésien », vous pourriez lui dire « oui, vous êtes dans l'illusion ». Parce que Descartes a eu l'idée du discours de la méthode dans un songe. Vous imaginez que c'est très cartésien, un songe. Donc il a eu l'inspiration dans un songe du discours de la méthode. On est complètement à distance d'une notion, d'un principe de rigueur, de pensée. Il s'est laissé inspirer la nuit par un songe, et le songe c'est quoi? C'est le préfrontal. L'inspiration c'est le préfrontal. Et donc quand ce système de fonctionnement peut être abîmé, on va passer au niveau du dessous. Parce que le système de fonctionnement cartésien, le cortex fonctionne intimement avec les émotions. Vous avez une pensée, vous avez une émotion. Vous avez une pensée, vous avez une émotion. C'est plus que ça encore. Vous avez une pensée, vous avez une émotion, vous avez une réaction métabolique, une réaction physique. Si vous ne souriez pas, vous ne pouvez pas avoir de joie. Pour ressentir une émotion, il est important qu'elle passe toutes les couches de fonctionnement, y compris qu'elle aille se manifester par une accélération cardiaque, par des sensations de contraction, une peur doit s'accompagner d'une horripilation, d'une sensation de froid, une émotion doit s'accompagner d'une bouffée de chaleur, sinon elle ne se vit pas. Vous avez des circuits neurologiques qui intègrent la totalité de votre corps. Et on sait par exemple que les personnes qui se font faire du Botox, vous savez ces petites injections qu'on fait sous la peau pour paralyser les muscles et supprimer les rides, eh bien les personnes qui ont fait du Botox ont du mal à ressentir des émotions. Parce que si vous ne pouvez plus faire une mimique, vous ne ressentez pas l'émotion. Donc pour ressentir une joie, il faut faire ça. Si votre visage ne bouge pas, vous n'arrivez pas à ressentir la joie. C'est beaucoup plus compliqué. Et quand un système ne va pas fonctionner, vous allez revenir au système d'avant. Si l'intuition ne marche pas, vous rêverez sur le mental. Si le mental ne marche pas, vous redescendrez sur les émotions qui vont vous déborder. Si les émotions ne fonctionnent pas, vous allez revenir sur les lois du troupeau, les règles dominant-dominé, axial-marginal, les règles du groupe du troupeau. Et si ça encore s'est cassé, vous allez arriver sur le reptilien, tueur-tué, vous allez vous défendre, vous allez taper l'autre, vous allez vouloir fuir, vous allez avoir des réactions du style « c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement, je te prie comme ça ». Et ça, c'est le reptilien. Et si le reptilien, il a une chose particulière, c'est qu'il est très difficile à détruire. Vous pouvez détruire les couches supérieures du cerveau, le reptilien, lui, il est pratiquement indestructible. Il sera toujours là. Et puis derrière, il y aura votre cerveau métabolique qui, lui, va sous-tendre tout ça. Et nous avons beaucoup entendu parler ces dernières années du rôle fondamental de l'intestin comme étant le deuxième cerveau, hein, qui a plus de 100 millions de neurones et qui va sécréter 90% de la sérotonine. C'est-à-dire que la sérotonine, c'est ce qui est le neurotransmetteur de la sécurité, de la stabilité, celui qu'on essaie d'augmenter quand on donne des antidépresseurs, eh bien, la sérotonine, elle, est sécrétée à 90% par le tube digestif. Donc, votre stabilité émotionnelle n'est pas psychique, elle est digestive. Et on peut aller encore beaucoup plus loin parce qu'il y a des cerveaux dans la totalité du corps avec le système sympathique et parasympathique. Et il y a aussi, et c'est très important, un cerveau cardiaque qui va gouverner votre mode de fonctionnement émotionnel et qui va avoir un rôle aussi très important, nous allons le voir, dans les problématiques de gouvernance du transgénérationnel. Un cerveau, donc, c'est fait pour s'adapter. Et dans la nature, il faut comprendre que la nature va toujours privilégier ce qui est dangereux par rapport à ce qui va bien. Parce que un animal peut réussir 100 fois à s'échapper, il suffit de se faire attraper une seule fois pour mourir. Donc l'échec est survalorisé dans les fonctionnements de type animal. La peur est survalorisée dans les fonctionnements de type humain, craintif, proche de l'animal. Plus l'humain va s'élever dans son mode de fonctionnement, plus il va se détacher des peurs et plus la part de positif va augmenter par rapport à la part de négatif et de crainte. Donc ça aussi, dans l'évolution, se détacher de sa part animale va être un élément très important pour arriver à l'équilibre. On a découvert ces dernières années à quel point les maladies psychiques étaient beaucoup plus complexes qu'on ne l'imaginait. On a découvert à quel point le fonctionnement des pathologies psychiques était différent de ce qu'il pouvait paraître. On a découvert ça, par exemple, énormément avec les neurosciences. Aujourd'hui, les neurosciences sont enseignées à une époque où on enseigne en médecine la neurologie et la psychiatrie. Maintenant, ça s'appelle des cours de neurosciences. On va enseigner comment fonctionne le cerveau. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus développé. On va être capable de savoir les zones qui vont fonctionner plus en cas de méditation. et les zones qui fonctionnent plus en cas d'activité. Par exemple, quand vous méditez, vous allez déconnecter les zones postérieures qui servent à synchroniser les informations. On appelle la zone de Wernicke. Elle va fonctionner moins fort, donc vous ne synchronisez plus les informations qui viennent de la vision, de l'audition, du toucher, de l'olfaction. Et vous allez favoriser les zones antérieures de l'intuition. Donc quand on voit les gens qui méditent, ils désactivent leur zone postérieure et ils activent plus fortement leur zone antérieure. Quand on va voir les gens qui ont des problèmes de schizophrénie, on peut comprendre comment fonctionne la schizophrénie parce que on va voir qu'en cas de schizophrénie, certaines zones particulières vont s'activer et d'autres vont se désactiver. Donc aujourd'hui, on peut comprendre comment fonctionne le cerveau. Alors on a fait énormément de travail pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau. On a utilisé des instruments qu'on appelle des PET scans, qui sont des instruments qui servent à voir la consommation d'oxygène. Donc on peut savoir la zone qui fonctionne parce qu'elle consomme plus d'oxygène. Le cerveau est un très très grand consommateur d'oxygène et de glucose. Il fonctionne à l'oxygène et au glucose. Donc il en a énormément besoin. Donc on sait où il consomme de l'oxygène et automatiquement on sait quelle est la zone qui fonctionne et la zone qui s'anime. Par exemple, quand on va regarder une problématique de schizophrénie, on va se rendre compte que la schizophrénie va correspondre à une erreur dans l'attribution de l'acte. C'est-à-dire, dans la schizophrénie, quand vous faites quelque chose, et vous allez attribuer l'acte à quelqu'un. Si par exemple vous décidez quelque chose, vous allez avoir votre préfrontale gauche qui va s'allumer et votre insula droite qui va s'allumer. Ou l'inverse, je ne sais plus, mais c'est pas important. Vous avez un côté du préfrontal et un côté de l'insula qui va s'allumer au moment où vous allez prendre une décision de faire quelque chose. Mais si c'est l'autre qui prend cette décision, c'est-à-dire qui allume la lumière ? Si c'est moi qui allume la lumière, j'allume la lumière, j'ai un côté qui s'allume en croisé. Si c'est toi qui allume la lumière, c'est l'autre côté qui s'allume en croisé. Et le problème des schizophrènes, c'est qu'on voit que ils font quelque chose, mais c'est leur cerveau réagit comme si c'était l'autre qui faisait la chose. Ce qu'on appelle une erreur dans l'attribution de l'acte. Et quand on comprend cette chose-là, on comprend tout à fait le principe de la schizophrénie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'individu n'a pas réussi à différencier ce qui était de lui et ce qui était de l'autre. Et la schizophrénie, ça commence avec une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Mais non, la cuillère, elle n'est pas pour papa, elle n'est pas pour maman, elle est pour le bébé, elle est pour le petit. Allez, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Non, une cuillère pour toi. Et quand vous dites « fais ça pour moi, fais-le pour moi », vous faites le lit de la schizophrénie parce qu'au bout d'un certain temps, la personne ne sait plus réellement si elle le fait parce qu'elle le fait pour elle ou si elle le fait pour vous faire plaisir ou parce que c'est indispensable de faire ça pour pouvoir exister, pour pouvoir continuer à aimer. Alors vous me direz, vous êtes tous pris dans ce genre de problématique, seulement dans la schizophrénie, ça envahit la totalité de vos pensées et vous n'arrivez plus à vous en sortir. Donc vous voyez, on peut assez rapidement comprendre le fonctionnement d'un somme de maladies psychiques avec l'erreur dans l'attribution de l'acte sur la schizophrénie. Mais si on veut aller un peu plus loin à propos de la schizophrénie, pour comprendre les fonctionnements psychiques, on peut aussi se dire que dans la schizophrénie, il y a un certain nombre de microbes qui interviennent. C'est-à-dire que il y a en matière de schizophrénie, la présence d'un certain nombre de microbes qui sont plus activés. C'est-à-dire que quand on fait des sérologies, on les voit plus activés. Des microbes comme la mononucléose, comme la toxoplasmose, ou certains HERVW, c'est-à-dire Human Endogène Rétrovirus. Donc on a un certain nombre, on passe en revue les microbes qui sont intéressés en fonction de chaque type de maladie psychique, mais c'est-à-dire qu'on a des maladies, des microbes qui vont s'activer particulièrement en cas de schizophrénie. Alors ça veut dire quoi une histoire comme ça? C'est-à-dire que là on commence à mélanger une problématique psychique avec une problématique infectieuse. Et il y a un certain nombre de maladies mentales que l'on soigne avec des problématiques infectieuses, en soignant des microbes. Donc ça devient plus compliqué. Et là, à travers cet exemple, nous allons nous promener dans la connexion très profonde qui existe aujourd'hui, que l'on peut comprendre entre le cerveau et le corps. Le cerveau, on le connaît beaucoup mieux avec grâce aux neurosciences, mais le cerveau interagit profondément avec le corps et il interagit profondément avec tous les autres systèmes, les systèmes hormonaux, les systèmes microbiens, les systèmes organiques. Alors si on comprend notre histoire de schizophrénie, vous avez par exemple la toxoplasmose qui est animée de façon plus importante dans la problématique de schizophrénie. Alors la toxoplasmose, vous savez, c'est une maladie que vous attrapez dont le porteur est le chat, et donc quand vous mangez des éjections de ça, vous prenez le toxoplasme, vous prenez du toxoplasme et vous attrapez la toxoplasmose. Toxoplasmose qui est une maladie qui n'est pas très grave, qui donne un tout petit peu d'éruption des ganglions, mais qui peut donner des problématiques beaucoup plus graves. Et en particulier, c'est une maladie qui peut être particulièrement dangereuse en matière de grossesse. Elle peut donner de malformations. Mais si on essaie de comprendre un peu plus à quoi correspond la toxoplasmose. Quand vous avez une toxoplasmose, en fait, vous ne vous défendez plus contre votre prédateur. Et la toxoplasmose, c'est une maladie que les prédateurs disséminent de façon à ce que leurs victimes ne se défendent plus et qu'ils puissent les posséder plus facilement. Donc par exemple, un chat va disséminer le toxoplasme parce qu'il sait qu'une souris qui est infectée par le toxoplasme ne se défend plus contre le chat. Un chimpanzé, qui est un des repas préférés des guépards et des panthères, eh bien un chimpanzé ne se défend plus contre le guépard ou la panthère s'il est infecté par le toxoplasme. Et on peut dire qu'un petit humain ne se défend plus contre les membres de son clan s'il est infecté par le toxoplasme. Et on voit dans le principe de la schizophrénie l'idée de dire que je me laisse envahir par la pensée de l'autre, je me laisse envahir par la pensée de l'autre, et je n'arrive plus à me défendre contre les pensées des autres. Dans la schizophrénie, on a aussi l'Epstein-Barr virus qui est activé. Et l'Epstein-Barr virus, c'est la mononucléose, c'est la maladie qui vous permet de vous autonomiser dans votre pensée quand vous arrivez à l'adolescence. Et d'être capable de prendre des décisions d'adulte sexué, c'est-à-dire se marier, fonder un foyer, faire des enfants, des décisions d'adulte sexué. Et donc vous voyez les problématiques qui se posent pour la schizophrénie. Et si on va encore un peu plus loin en matière de schizophrénie, on sait par exemple que arrêter le gluten a une action très 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 importante sur la schizophrénie. Et la caséine, mais c'est le gluten qui intervient beaucoup plus sur le problème neurologique. La caséine va intervenir aussi, mais beaucoup moins. Elle intervient beaucoup plus sur le problème organique, cutané, éruption, eczéma, rhumatisme. On dira que c'est 80% de le gluten et 20% de caséine. Et au niveau eczéma, articulation, c'est l'inverse. C'est 80% de caséine et 20% de gluten, sauf pour une maladie comme la spondylarthrite ankylosante, où le gluten a un rôle très très important. Parce qu'il y a une structure psychique qui est très très forte dans la spondylarthrite ankylosante. Bien, donc on revient à notre schizophrénie. Notre schizophrénie va mieux si vous pouvez arrêter le gluten et la caséine. Et ça veut dire quoi? Le gluten, c'est la règle, c'est la loi du groupe et de l'autre sur moi. Donc on a encore le problème d'une loi extérieure qui vient intervenir sur moi et qui fait que quelque part, à la fin, je ne saurais plus qui je suis, et je ne saurais plus qui fait quoi. Je ne saurais plus qui fait quoi, au point que l'autre qui est en moi, pour me défendre, je vais l'imaginer comme étant un personnage extérieur qui me commande du dehors. Ce qui n'est pas faux. Sauf que je l'ai introjecté. J'ai introjecté à la noyau de la pensée d'un autre à l'intérieur de moi, au point que je pense que j'entends des voix qui me disent ça. Mais j'entends réellement des voix. C'est comme si j'avais deux centres de pensée à l'intérieur de moi, le centre de pensée qui est le mien et le centre de pensée qui est celui de l'autre. Et on comprend un peu plus la schizophrénie. Si vous désactivez le gluten et la caséine, vous allez désactiver le deuxième centre, il va être moins présent et vous pourrez revenir plus sur vos propres pensées. Si on remonte encore un peu plus loin pour comprendre bien toutes les connexions de fonctionnement du cerveau et des maladies psychiques, en restant sur notre exemple de schizophrénie, eh bien, il va Il y a une hormone, plus justement un enzyme, qui s'appelle la syncytine, qui va être très présent en matière de schizophrénie. C'est-à-dire qu'il va être très exprimé. Alors c'est quoi exprimé? C'est-à-dire, on peut le doser, il est très présent et il se manifeste. Il va fonctionner plus dans ce type de pathologie. Et la syncytine, c'est très intéressant parce que ce n'est pas rien comme enzyme. La syncytine est une molécule qui est héritée d'une infection virale qui a eu lieu il y a plus de 40 000 ans. Et infection virale qui a infecté les oiseaux qui étaient des ovipares et qui s'est intégré dans leur ADN. Donc c'est ce qu'on appelle les rétrovirus. Les rétrovirus sont très importants parce qu'ils vont changer le devenir de l'espèce humaine, le devenir des espèces. C'est un apport microbien qui change le devenir des espèces. Le rétrovirus le plus connu qui prospère actuellement, c'est le sida, qui est un rétrovirus qui change fondamentalement le mode de fonctionnement et qui vient restimuler l'immunité. Là, ce rétrovirus-là, c'est HERV, Human Endogene Retrovirus, HERV, donc rétrovirus, et c'est la catégorie des W, donc ils sont classifiés par lettres et par numéros, et donc c'est le W40, HERV, W40. Donc le HERV W40, quand il infecte la poule de l'époque, la poule d'il y a 40 millions d'années, telle que vous pouvez l'imaginer, eh bien, il va créer deux choses. Il va créer la capacité à fabriquer de la syncytine et il va créer ce qu'on appelle une immunotolérance. Alors, la capacité à créer de la syncytine, c'est quoi? C'est la capacité à faire fusionner les membranes cellulaires. Quand l'œuf descend dans l'oviducte de la poule et qu'il est encore fluide, qu'il n'est pas encore entouré de sa coquille de calcium qu'il va prendre vers le bas de l'oviducte, eh bien, cet œuf va, au lieu de descendre, il va accrocher, il va coller à la paroi de l'oviducte. Grâce à la syncytine, les cellules vont fusionner. Et en quelques millions d'années, cette fusion va déclencher un épaississement de cet oviduc qui va se dilater et qui va devenir l'utérus sur la trompe. Avant, imaginez, vous avez les trompes qui descendent jusqu'au vagin et jusqu'à l'expulsion. À l'époque, ça s'appelle le cloaque. Et donc on va minéraliser l'œuf et il est expulsé. Là, ça s'arrête sur la route. Il y a une zone d'arrêt qui se développe, qui s'appelle l'utérus. Et donc les mammifères vont avoir comme caractéristique que l'œuf s'est arrêté parce que la syncytine a bloqué l'œuf et a favorisé le développement d'un utérus. Et l'œuf, au lieu de continuer sa course et de continuer son évolution à l'extérieur, va progressivement continuer son évolution à l'intérieur. Il existe des formes intermédiaires où l'œuf fait une partie dedans, une partie dehors. Ça s'appelle les marsupiaux. Hein, ce sont les kangourous toute la famille des marsupiaux où il y a une partie dedans et une partie dehors dans une poche ventrale où le petit va continuer à se développer. Donc on peut faire partie dedans, partie dehors. Tout dehors c'est l'œuf et tout dedans c'est les mammifères. Donc la syncytine, elle a cette caractéristique. Elle va permettre de fusionner. Et donc, pour créer le placenta, qui est une catégorie qu'on appelle un syncytiotrophoblaste. Blast, c'est-à-dire tissu primaire. Tropho, c'est-à-dire qui sert à nourrir. Tissu primaire qui sert à nourrir. Syncytio, tissu primaire qui sert à nourrir et à fusionner. Donc, je fusionne. Et je nourris les tissus primaires. Ça s'appelle un placenta, syncytiotrophoblaste. Et donc cette fusion de base est indispensable pour créer un mammifère, est indispensable pour que l'œuf puisse se développer à l'intérieur de l'utérus. Donc le propre de la syncytine, c'est la fusion. Et le propre des petits humains et des petits mammifères, c'est le temps de fusion. Vous voyez bien que les reptiliens ont pratiquement pas de temps de fusion parce qu'ils lâchent leurs œufs, ils s'en vont. Les poissons lâchent leurs œufs dans la mer et ils s'en vont. D'ailleurs, ils servent de nourriture pour les autres poissons. C'est un stade pédophile normal. Les petits des uns servent de nourriture pour les autres. C'est les œufs de poissons dans la mer. Même vous, d'ailleurs, vous mangez les œufs des poissons. Donc vous êtes prédateur des petits des autres. Et plus vous évoluez dans les espèces, plus vous allez garder un lien important avec vos petits. Donc après ça, vous avez les ovipares qui vont couver leurs œufs, qui vont rester dedans. Il y a la fameuse histoire de l'empereur, du manchot empereur, où le mâle et la femelle se relaient pour couver les œufs et pour les faire vivre à moins 50. Donc il y a ce principe-là où on voit l'attachement qui se produit. Plus vous couvez, plus vous restez proche, plus vous attachez. Et les mammifères sont plus attachés que les ovipares. Et les mammifères humains sont les plus attachés de tous, au point que leur grande difficulté, ça finit par devenir de se détacher. Comme dirait Cyril Nick, le propre à la difficulté des êtres humains, c'est qu'ils existent malheureusement en passant par l'autre. Et que leur grand travail, c'est j'existe parce que je suis passé par l'autre. Mais tout le problème de ma vie, et pour arriver à mon vrai self, c'est de quitter ce que j'ai appris pour arriver à être moi-même. Et vous verrez qu'une grosse partie de maladies psychiques et des maladies organiques vont se jouer dans cette difficulté-là. Donc, la syncytine permet de fusionner. Et le HERVW40, il a une deuxième caractéristique, c'est qu'il va donner quelque chose qu'on appelle l'immunotolérance. Donc, si vous mettez une écharpe dans le doigt, vous ne la supportez pas, vous allez l'éliminer. Si on vous fait une greffe d'un organe étranger, vous allez l'éliminer immédiatement. Mais un petit de mammifère dans le ventre de la maman, dans la femelle, c'est 50% différent. Et personne ne peut tolérer à l'intérieur de soi quelque chose de 50% différent. Sauf s'il y a une immunotolérance. Et donc, le deuxième élément fondamental de cette infection, c'est, après la syncytine qui est la fusion, c'est l'immunotolérance. Je tolère que l'autre soit différent de moi. Et je tolère d'avoir à l'intérieur de moi quelqu'un de différent de moi. Et je vais être en relation, pendant tout le temps de la grossesse, puis après, avec quelqu'un de différent de moi. Sauf qu'il y en a qui oublient que l'autre, il est différent, il voudrait qu'il soit soi. Et sauf qu'il y en a qui oublient qu'il faut défusionner. Donc dans le fonctionnement des mammifères, et particulièrement des mammifères humains qui ont cette phase de fusion très longue et très prolongée, eh bien c'est justement de ne pas oublier qu'à la fin du truc, bah, il faut défusionner et il faut reconnaître que l'autre est différent. Ça c'est la difficulté. Et c'est intéressant aussi parce qu'on va voir ça dans tout le problème des maladies psychiques, cette fusion très prolongée est une zone de transmission très très importante. C'est-à-dire qu'un petit humain, pendant longtemps, il est dépendant de son parent. Et un peu à la fois, et uniquement un peu à la fois, il va devenir indépendant. Il va commencer par dire non, puis dire moi tout seul comme je veux. Et ça, c'est l'âge où les enfants rejettent leurs parents pour apprendre à se débrouiller seuls. Et puis après, ils vont s'autonomiser un peu à la fois. Toute l'importance de ce problème, c'est à partir de quand ça diffusionne. Et à partir de quand on arrive à la diffusion totale. Et toute la grande erreur, c'est que vous verrez, les bébés, ça commence à diffusionner à partir de l'âge de 3 mois. Ça va très vite. Dès qu'ils commencent à regarder ailleurs, ils défusionnent. Il y en a qui pensent qu'on défusionne à 20 ans. Et c'est toute la problématique. Hein, c'est toute la problématique des mères juives qui pensent qu'on défusionne à 20 ans, ou à 30 ans, ou jamais. Et ça, c'est un énorme générateur de maladies et de pathologies psychiatriques. Donc, vous avez sous cette problématique-là. Et c'est vrai que le propre de l'humain, justement, c'est de passer longtemps dans cette phase de transmission qui est à la fois le meilleur puisque vous allez pouvoir lui permettre d'évoluer, de grandir, d'apprendre plein de choses, de lui passer énormément d'informations. Mais c'est le pire aussi parce que dans ces informations, cette éducation, cet apprentissage qui est d'autant plus important que vous faites des études, que vous faites un développement intellectuel important, et bien dans cette phase-là, bah, vous allez aussi passer des choses qui ne vont pas. Et c'est de ces choses-là dont il va falloir se détacher. Une grosse partie des maladies psychiques vont être liées à la difficulté à se détacher de ce que l'on a reçu pour arriver à soi-même. D'ailleurs, c'est ce que notre grand Donald Winnicott racontait, le faux self et le vrai self. C'est une notion qu'on va beaucoup travailler pendant cette formation. Je suis qui, moi, au fond ? C'est quoi mon vrai self ? Est-ce qu'il y a une personnalité essentielle première ? Ou est-ce que la personnalité n'est que formée par l'interaction avec l'autre ? Que ce soit Alice Miller, que ce soit Winnicott, que ce soit Melanie Klein, comme moi, je pense qu'il y a une personnalité essentielle. Et qu'elle est là, et qu'elle est dans votre ADN. Et que cette personnalité essentielle, elle cherche à se manifester pour arriver à votre vrai self. Mais la plupart des humains développent, on développe tous un faux self, qui est une forme adaptative, qui est ce que vous allez développer pour vous adapter aux besoins du parent, pour être aimé par votre parent. Ça s'appelle le faux self. Et une grosse partie de la vie, c'est de démonter le faux self pour arriver au pré-self. Si on parle des notions de neurosciences, on va parler de personnalité primaire et de personnalité secondaire. Vous avez une personnalité primaire qui est essentielle à vous et vous allez vous adapter vers une personnalité secondaire, dans une personnalité secondaire, qui pourrait être la persona jungienne, alors que la personnalité primaire, ce serait le soi profond. Donc vous voyez, vrai self, faux self, personnalité primaire, personnalité secondaire. Le but de la vie, c'est d'aller, de revenir vers sa personnalité primaire, après être passé dans la personnalité secondaire. Et donc, si on prend la forme la plus extrême de difficulté et d'envahissement par l'autre dans la personnalité qu'est la schizophrénie, eh bien, puisque je vous expliquais le HERVW40 et la syncytine, pourquoi ? Parce que comme par hasard, dans la schizophrénie, le taux de syncytine est très élevé. Beaucoup, beaucoup plus élevé que chez les gens qui ne sont pas schizophrènes. Au point que tester l'expression de la syncytine peut être un élément pour repérer la schizophrénie, ou le risque de schizophrénie, ou les structures de type schizophrénique. Vous voyez qu'on est dans une notion comme ça. Et c'est intéressant aussi parce que on peut essayer de voir quelles sont les autres pathologies où il y a beaucoup de syncytine. Et dans quelle pathologie il y a beaucoup de syncytine ? Dans la sclérose en plaques, qui est une forme de schizophrénie organisée. Sauf que dans votre cerveau, vous attaquez la gaine de myéline pour essayer de détruire cette schizophrénie à l'intérieur de vous. Vous ne faites pas deux noyaux de pensée isolés dont un commande l'autre et parle à l'autre, mais vous attaquez à l'intérieur de vous la zone qui va correspondre à votre parent, c'est-à-dire la gaine de myéline. L'appel à les cellules nounou qui vont théoriquement vous aider, qui en fait ne vous aident pas mais vous bloquent. Et c'est intéressant parce qu'on peut aussi voir qu'il existe des maladies où la syncytine est très basse. C'est-à-dire, par exemple, dans l'hypertension artérielle de la grossesse, vous avez un taux de syncytine très bas. Et l'hypertension artérielle de la grossesse qui va se terminer par la crise d'éclampsie. Ce qui signifie que l'hypertension artérielle de grossesse, c'est un refus par la mère de la fusion avec l'enfant, qui amène au maximum à la crise d'éclampsie, qui va tuer l'enfant. Quand une femme fait une crise d'éclampsie, si vous ne faites pas une césarienne ou un accouchement en urgence, l'enfant va mourir. Donc ça veut dire que ça sert à tuer. Je ne supporte pas cette chose qui est à l'intérieur de moi et qui m'envahit et qui me fait perdre le contrôle sur moi-même. Donc je me mets dans une lutte de pouvoir contre mon propre enfant, c'est-à-dire une hypertension artérielle, jusqu'à le détruire parce que je ne supporte pas qu'il soit à l'intérieur de moi de cette manière-là. Donc vous voyez, on a les deux excès. Je fusionne énormément sclérose en plaques, schizophrénie, et je refuse toute cette notion-là, hypertension artérielle de grossesse et éclampsie. Vous voyez, quand je vous passe en revue à l'exemple de la schizophrénie, on passe en revue la plupart des découvertes modernes concernant le fonctionnement du cerveau et des maladies psychiques. On a les neurosciences, les zones qui s'activent, les zones qui ne s'activent pas. On a les hormones, les enzymes, les microbes et le fonctionnement dans la grossesse et le fonctionnement en lien avec les maladies. Donc on voit à travers ça un bon exemple du fonctionnement psychique. Bien, alors, ça c'est une chose. Nous reviendrons pendant cette formation sur la notion des microbes et du rôle des microbes dans les maladies psychiques. Ça c'est très important, le rôle des microbes dans les dépressions, le rôle des microbes dans tous les problèmes anxieux et comment aujourd'hui on peut réussir à soigner des maladies psychiques comme des maladies organiques. Et il faut vraiment réaliser aujourd'hui qu'une maladie psychique, c'est comme une maladie organique. Sauf que ça fait beaucoup plus peur. Parce que la peur de devenir fou, la peur de la folie, est quelque chose qui habite beaucoup de personnes. C'est aussi quelque chose qui habite beaucoup les médecins. Donc c'est pour ça que les psychiatres sont mis en dehors, parce que les psychiatres, c'est pour les fous. Et la peur d'être fou est quelque chose qui touche beaucoup. Quand vous voyez un fou autour de vous, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, vous verrez que tout ce qui peut paraître être des folies est d'une sagesse extraordinaire. Que les délires d'un schizophrène vous expliquent la cause de la schizophrénie. Les délires d'un maniaco-dépressif vous expliquent la cause de sa maniaco-dépression. Les obsessions, les phobies, les fantasmes, les manies vous expliquent l'origine du problème. Donc, en matière psychique, vous allez toujours écouter très en détail ce qui est dit d'un mode de fonctionnement. Vous allez toujours écouter très en détail ce qui est raconté d'une problématique et d'un délire psychique. Et là, vous arriverez à comprendre ce qui se passe. Je me souviens, il y a un certain nombre d'années, j'avais vu en consultation un jeune de 25 ans qui vient me voir et qui me ramène un livre de, je ne sais plus, un Science et Vie ou un Science et Avenir sur les nanoparticules. Et il me dit, qu'est-ce que vous pensez des nanoparticules ? Bon, c'est intéressant, effectivement, mais c'est bien, c'est bien. Je dis, mais vous venez voir en consultation, pourquoi ? Ah bah pour vous demander ce que vous pensez des nanoparticules. Déjà, on commence à décaler. Bien. Et puis, il me pose pas mal de questions, et puis il me parle des nanoparticules, il m'explique, je me rends compte qu'il connaît ça très très bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que moi. Il est calé, il a une connaissance 100 fois comme la mienne en matière de nanoparticules. Il est très fort. Et à tel point que je commence à avoir une discussion avec lui et je lui dis, mais à quoi ça sert ? Alors là, il commence dans un discours qui est un discours délirant sur la fonction des nanoparticules. Un discours délirant typiquement schizophrénique, pour ne pas être envahi, pour se protéger des attentats. À l'époque, c'était Chirac, pour que Chirac ne soit pas assassiné, vous voyez. On part dans un délire de cet ordre-là. Et chaque fois, je lui dis, mais à quoi ça sert ? Et à quoi ça sert ? Il me sort chaque fois une certaine chose, avec des histoires politiques, des histoires d'espionnage, des histoires de dangerosité, etc. Et au milieu de l'ensemble de ce qu'il me dit, à un moment, il sort une phrase absolument qui n'a rien à voir avec ça, que j'aurais pu, sur laquelle j'aurais pu zapper, mais que je note, il me dit, ça sert à pouvoir manger autant qu'on veut sans prendre de poids. Je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là, cette histoire ? Mais je note, et je note, et je note. Il me sort des tas d'autres phrases comme ça. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il est très gentil, il est très sympa, il n'y a rien de, de dangereux. Et il est sympa. Il aurait pu presque jouer dans Dîner de cons. Et puis, à un moment, il me montre un papier, parce qu'il avait écrit à un professeur de faculté, spécialiste des neurosciences, dont je ne sais plus quelle faculté, qui lui avait réécrit une lettre très très gentille, manuscrite, où il lui disait, oui, c'est bien, c'est intéressant, tout ça, mon garçon, c'est très très bien, etc. Oui, effectivement, effectivement. Et à la fin, il termine, avez-vous pensé en parler à un psychiatre ? Donc, il avait très habilement compris la situation. Il proposait à ce garçon le fond de ce qu'il avait senti. Et puis, la chose en reste là. Et puis, je le revois une fois. Puis, à un moment, je vois arriver sa mère en consultation. Et je pense qu'elle vient me parler de son fils. Et non, elle me dit, oui, mais vous qui êtes homéopathe, vous avez sûrement des trucs, parce que maintenant tous les produits qu'il y avait, qui existaient avant, sont aujourd'hui interdits. J'arrivais encore à m'en faire venir du Japon, mais c'est très compliqué. Et est-ce que vous n'avez pas des trucs pour maigrir ? Parce que, est-ce que vous n'avez pas des filons, des trucs que vous pouvez donner, que vous avez pour... C'est en gros. Donc en fait, elle n'arrive plus à trouver de produits pour maigrir. Donc globalement, son fils fait un délire anorexigène. Son fils fait un délire amaigrissant pour permettre à sa mère de ne pas prendre de poids grâce aux nanoparticules. Et donc, et elle me dit, vous savez, c'est très compliqué parce que toute ma vie, je me suis battu contre le problème de poids et je ne m'en sors pas. Et elle dit, Et alors on parle. Je vous résume un peu parce qu'il y a eu pas mal de consultations où un petit peu à la fois on est arrivé sur la chose. Mais elle me raconte que quand elle était plus jeune, son père adorait sa mère, qui était une femme forte. Et donc, comme il adorait sa mère, il voulait que sa fille soit pareille. Donc il avait projeté sa propre mère sur sa propre fille. Et donc pour qu'elle soit ronde, il l'avait gavée de lait concentré sucré. Ce qui est exactement ce qu'il faut faire si vous voulez augmenter et multiplier les acides graisseux. Et des cellules graisseuses qui ne demanderont qu'à se remplir toute votre vie. Et qui seront là en permanence, vous avez beau faire tous les lipositions que vous voulez, vous constituez bébé un capital de gras, de cellules qui sont prêtes à gonfler n'importe quand, donc quoi que vous fassiez, hop, ça gonfle. Et donc toute cette problématique, c'était ça, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Donc son père, donc le grand-père du garçon en question, adorait sa propre mère, et donc il avait gavé sa fille, la mère, pour qu'elle ressemble à sa propre mère. Voilà. Et donc, l'enfant, lui, il était face à ça, pour trouver une solution du désir inconscient de sa mère, comme tout petit enfant a envie de faire plaisir à sa maman et à son papa, lui voulait faire plaisir à sa maman, il faisait son délire anorexigène. Et donc, je cherche un peu dans l'histoire de la famille, et c'est un peu complexe parce qu'on me dit, oh, c'est difficile, et puis il parle de ma... Donc, l'arrière-grand-mère du garçon, donc la grand-mère de cette femme, c'était une femme, c'est une sainte femme, qui, etc., mais elle n'a pas eu de chance parce qu'elle a un fils qui s'est suicidé. Et puis, l'autre, il ne veut plus lui parler, il est méchant, il ne voulait plus lui parler, il est méchant, etc. Donc, un frère du père, et il a plus de 80 ans, il ne veut plus lui parler, mais il a dit du mal d'elle, c'est vraiment le méchant garçon, etc. Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous savez de cet homme-là? Ah, mais il est méchant, il est mauvais, de toute manière, il déteste les femmes, il est horrible, et personne ne veut voir. Donc, je dis, mais allez voir. Vous savez, quand il y a une information comme ça, je dis, allez voir. Et donc, elle va voir, elle se décide enfin, après X consultations, à aller voir cet homme, c'est compliqué, c'est long, ça prend plus d'un an. Et elle revient, elle me dit, mais c'est absolument incroyable. Je suis arrivé chez cet homme, qui déteste les femmes, en théorie, et j'arrive chez lui et il habite une très très belle maison, c'est un collectionneur d'art. Et il collectionne les vierges polychromes. Donc il y avait une sorte de couloir d'entrée avec des petites alcôves, avec des vierges polychromes magnifiques, qui étaient éclairées par des petits spots superbes. Pour un homme qui n'aime pas les femmes, collectionner les vierges polychromes. Et il était là, il avait plus de 80 ans, et il était marié depuis 60 ans avec la même femme, et qui s'entendait très bien, il y avait des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, pour un homme qui... Voilà. On n'était pas du tout dans ça, dans ce qui se passait. Donc elle est accueillie extrêmement gentiment. Et tout de suite, cet homme qui lui est très franc, très direct, ce qui n'était pas le cas du reste de la famille, lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens me parler de ma mère. Elle ne sait pas quoi dire parce qu'elle elle a été élevée dans un « on ne dit pas ». Grande base de maladies psychiatriques. Il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui ne se font pas. Ça, c'est la phrase typique qui est grand générateur de cancer et de maladies psychiatriques. Quand vous entendez cette phrase, vous savez qu'il va y avoir de la casse dans la famille. Et donc, elle revient, elle me dit, en fait, il me dit directement, tu viens me parler de ma mère? Oui, je voulais plus la voir. Et tu veux savoir ce qui s'est passé? Ma mère, elle a couché avec ses enfants. L'aîné s'est suicidé. Ton père, lui, il aimait bien, il a continué toute sa vie. Et moi, je supportais pas, je me suis engueulé, donc je suis parti. Et quand j'ai dit la vérité, tout le monde m'a exclu de la famille. Donc on a un secret qui est porté et qui, 4 générations après, ne peut se manifester que par l'intermédiaire d'un délire. Avec un enfant qui, 4 générations après, va tenter de trouver une solution pour soigner la souffrance de sa mère, qu'il a vue toute son enfance, cette femme qui ne comprend pas ce qui s'est passé, qui ne sait pas pourquoi elle était gavée au lait concentré sucré, qui adore son propre père, qui adorait la grand-mère, et qui ne comprend rien de l'histoire, et le délire schizophrénique de l'enfant ne vient que manifester l'histoire familiale. Donc, vous voyez, dans un délire, y compris schizophrénique, écoutez bien tout ce qui se passe parce que c'est souvent extrêmement intéressant, extrêmement clair comme situation. Alors, et puis on peut aussi voir que le cerveau va agir encore d'autres manières. Alors tout ce qui est le grand mouvement du sens des maladies, des codes de maladies, qui est apparu il y a 30-40 ans, que j'ai bien connu dès son début, a parlé du cerveau comme étant à l'origine des maladies et comme étant le système de contrôle des maladies, avec des maladies évoluant sur trois plans, un conflit psychique, une zone de somatisation et le cerveau au milieu pour contrôler. Donc dans ce principe-là, le cerveau prend une autre fonction encore. C'est-à-dire qu'il est un tableau de contrôle des émotions, un tableau de contrôle des vécus, et il contrôle les organes correspondants. Et donc, tout le travail que nous faisons dans cet enseignement aussi est d'essayer de comprendre le sens des maladies. C'est-à-dire, quelle maladie nous renvoie à quel type de problématique psychologique ? Quelle maladie nous renvoie à quel type de problématique psychologique ? Avec une chose que je dirais tout de suite, c'est très important, ce n'est pas parce que vous avez compris la cause psychologique de votre maladie que vous l'avez pour autant guérie. Et un des grands drames de ce mode de fonctionnement, et ce qui l'a complètement discrédité, a été de dire « bon ça va, j'ai décodé, j'ai compris, je suis guéri ». Ok, tu choisis du chêne ou du sapin. C'est-à-dire que vous avez vite fait de mourir guéri. Et effectivement, entre les spiritualistes et les matérialistes, c'est clair que les matérialistes sont infiniment plus performants pour la guérison des maladies. Et quand vous avez une maladie, et quand elle est sérieuse, il faut d'abord l'attaquer au niveau matérialiste, au niveau matériel. Et après, en même temps et en parallèle, et ensuite, la considérer au niveau psychologique, de façon à arrêter de générer ce qui va donner la maladie. Mais quand vous avez accumulé une masse de maladies importantes, eh bien si vous ne l'éliminez pas par une action organique, qui peut être chirurgicale, médicamenteuse ou autre, eh bien vous aurez du mal, elle a pris un tel poids que même en ayant compris, elle va emporter, elle va faire basculer dans la maladie irréversible ou dans la mort. C'est clair que des maladies plus légères, une angoisse de séparation qui va se traduire par un eczéma, c'est pas la peine d'aller faire de la chirurgie, ça sert à rien. Si vous comprenez la psychologie, si vous prenez les bons régimes, ça va disparaître tout de suite. Si vous avez une tendance à faire des angines ou des otites, si vous comprenez la psychologie, ça va disparaître tout de suite. Si vous donnez les bons remèdes, ça va disparaître tout de suite. Mais si vous avez un cancer, ça veut dire que vous êtes dans un déni qui existe depuis pas mal d'années ou depuis pas mal de générations. Et que vous ne contrôlez pas bien ce qui se passe, parce que même si vous pensez avoir compris, vous ne pensez avoir compris un tout petit morceau alors qu'il y a tout ça. Donc vous aurez compris ça et vous allez basculer dans la tombe avec le bras. Donc ça c'est très important et je tiens vraiment à le dire, parce que dans ce principe de fonctionnement du cerveau comme étant l'élément de contrôle, eh bien il faut comprendre que je pense que c'est tout à fait vrai, mais je pense aussi qu'il faut ramener les choses à leur place. Et en tant que médecin, il est clair qu'il faut considérer l'aspect organique fondamental. Quand vous vous trouvez au fond la maladie au niveau psychique, ça va être quoi ? Ça va être un écart trop important entre le vrai self et le faux self. Si les deux sont trop écartés, si ce que je suis vraiment et par rapport à ce que je suis pour m'adapter socialement, il y a trop d'écart, eh bien là, dans cet écart-là, vous allez générer une maladie. Évidemment, la maladie va se gérer à un endroit du cerveau, va se gérer sur un organe et va se gérer sur un conflit psychique. C'est-à-dire, quel est l'endroit où il y a l'écart entre le vrai self et le faux self, quel est l'endroit où il y a le plus d'écart et qui va être la zone de tension maximum qui va générer le lieu de somatisation. Et vous allez toujours somatiser dans la zone la plus tendue. Dans une chaîne, c'est toujours le maillon le plus faible qui lâche. C'est le maillon le plus faible d'une chaîne qui lâche. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas lâcher. Mais il y en a un qui lâche en premier. Et souvent d'ailleurs, quand il y en a un qui lâche, il vient baisser la tension. Et du coup, vous vous concentrez sur celui-là, parce que du coup, comme il y a moins de tension, les autres vont pouvoir cicatriser, vont pouvoir aller un petit peu mieux. Mais vous pouvez faire plusieurs maladies de suite. Vous verrez que vous commencez à lâcher d'une façon prédominante d'abord sur un maillon. Voilà, donc là on entre dans d'autres considérations en matière de cerveau. Nous ne sommes plus dans la neurologie classique. Nous sommes dans un mode de fonctionnement plus large avec des neurosciences, avec un cerveau qui fonctionne en lien avec la totalité de l'organisme, avec un cerveau qui est en lien avec les hormones, avec un cerveau qui est en lien avec les microbes, et surtout avec un cerveau qui est en lien avec les conflits psychiques et les maladies organiques. Et c'est de cette manière-là que nous allons considérer les maladies psychiques et les maladies psychiatriques. Et puis nous verrons, nous allons passer en revue pas mal de modes de fonctionnement. Nous allons aussi parler d'embryologie. Et nous allons essayer de comprendre quelles sont les maladies psychiatriques, comment elles fonctionnent. Et nous allons faire quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que vous allez chacun vous tester sur vos pathologies psychiatriques. En quoi êtes-vous paranoïaque? En tout êtes-vous schizophrène? En quoi êtes-vous hystérique? En quoi êtes-vous dépendant? En quoi êtes-vous évitant? En quoi êtes-vous borderline?
Hein? Obsessionnel.
Voilà. En quoi êtes-vous obsessionnel? En quoi êtes-vous antisocial? Et c'est très intéressant parce que vous verrez que nous allons utiliser les classifications classiques et vous verrez que si vous voulez jouer le jeu dans l'honnêteté la plus complète, eh bien vous reconnaîtrez que vous avez tous les différentes facettes. Et quelqu'un de malade, c'est quelqu'un qui est bloqué dans une facette, qu'on s'appelle bloqué dans un coin. Les animaux, eux, sont tous bloqués dans un coin. Il y a des dominants, il y a des dominés, il y a des loups solitaires, il y a des... voilà. Et quand un animal arrive dans un troupeau, les autres viennent lui parler pour voir où il va, dans quelle position il est. Les humains, vous essayez de rester au centre, c'est-à-dire rester dans l'équilibre. Parce que si vous partez dans les coins, là, vous êtes en danger d'une maladie psychiatrique. Mais en même temps, vous verrez que plus vous avez conscience de vos problèmes, mieux vous allez. Et ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui lèvent le plus la main en matière de nombre, ce qu'on appelle d'items, c'est-à-dire de caractéristiques des maladies psychiatriques, ce sont ceux qui se connaissent le mieux. Et ils les lèvent sur presque tout. Ils ont conscience de leur obsessionnel, de leur borderline, de leur schizophrénie, de leur paranoïa, de leur etc. Et se connaître bien, c'est savoir qu'on a tout ça à l'intérieur de nous. Et d'une façon importante, faire un déni sur une part de nous-mêmes, ne pas vouloir le voir, c'est le début de la pathologie. Vous verrez que quand vous êtes bloqué dans une situation, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc vous pouvez avoir l'air de n'être pas du tout comme ça. C'est ce qu'en TNCC, on appelle les fonctionnements en hypo. Vous êtes bloqué sur un domaine. Et puis quand vous êtes en hypo, vous pouvez compenser par un hypercompensatoire. Et puis cet hypercompensatoire, vous pouvez l'écraser, ce qu'on appelle une répression d'hyper, et là c'est les formes les plus graves, parce que vous êtes en réactivité très forte par rapport à quelque chose, parce que vous avez un manque, vous avez compensé, et cette compensation est en difficulté, donc là vous êtes en répression d'hyper, et là vous pétez les câbles n'importe quand et à toute vitesse sur n'importe quoi, et là, voilà. Donc la conscience de ce que vous êtes est très importante. Un bon psychothérapeute, un bon médecin qui aurait travaillé sur lui-même a conscience de toutes ces pathologies en lui. Et quand quelqu'un vient vous voir en thérapie, la question c'est pas qu'est-ce qu'il a, c'est dans quoi il vient me chercher. Il vient me chercher dans ma paranoïa, il vient me chercher dans mon borderline, il va me chercher dans mon obsessionnel, il vient me chercher où en moi. Et les thérapies transpersonnelles, voire transcorporelles, ce sont des thérapies où le thérapeute il se connaît et il sent que telle partie psychiatrique en lui vibre avec la partie de l'autre. Et c'est par cet intermédiaire-là que va se jouer le travail. Mais si vous avez peur de vos parties psychiatriques en vous, vous ne pourrez jamais soigner les autres. Donc, vous inquiétez pas, nous sommes tous fous. Il y a des fous équilibrés et il y a des fous déséquilibrés. Il y a des fous bloqués et il y a des fous non bloqués. Voilà. Et c'est ça, chacun est dans sa problématique, c'est ça qui est très important. L'équilibre, c'est d'avoir une fluidité par rapport à l'ensemble des choses. Et c'est ça que nous allons voir.